Merci, frère, pour les beaux chants que vous nous avez fait chanter. Ces beaux chants que nous avons chantés m'ont ramené jusqu'à ma plus tendre enfance. Nous le chantions, ces cantiques. Ils sont restés gravés dans mon cœur. Et ensuite, de par le monde, sur les différents champs missionnaires où le Seigneur a conduit mes pas, nous chantions aussi ces cantiques-là. Et l'avant-dernier m'a beaucoup ému. Nous t'adorons, ô Dieu, dans ton temple. Je revois ma femme qui était encore là. Nous étions dans une petite île du Pacifique Sud, toute petite île. Et je la vois apprendre ce chant à ces hommes, à ces femmes, du bout du monde, de l'extrémité de la terre. Au début, c'était des balbutiements. Mais lorsqu'ils l'ont mémorisé, c'était un chant contagieux qui vous donnait envie de chanter. Et nous avons chanté avec eux tous ensemble. Et c'était beau et c'était sublime. Ces chants que nous chantons sont chantés finalement par toute la terre. Tous les enfants de Dieu, nés de nouveau, chantent ces cantiques devant le trône de l'agneau. Et lorsque nous serons là-haut dans la gloire, comme dit l'Écriture, nous chanterons le cantique de Moïse et plus encore le cantique de l'agneau. Et un frère, dans sa prière, je l'ai entendu, il a dit: Seigneur, tu es ce que j'ai de plus précieux dans mon cœur. Je pense que pour nous tous, c'est la même chose. Le Seigneur, c'est ce que nous avons de plus précieux dans notre cœur. Mais savez-vous ce que le Seigneur, lui, a de plus précieux ici-bas? On va essayer d'en parler. Je vous divulgue la chose. Ce que le Seigneur Jésus a de plus précieux ici-bas, c'est son Église. Ce sont ses rachetés. Ce sont ceux qu'il a fait naître de nouveau, qu'il a fait passer de la mort à la vie. Ce sont ceux qu'il a lavés par son sang de tous nos péchés et dont il a fait des enfants de Dieu. Sur la terre, dans tout le cosmos, dans tout l'univers que Dieu a créé, il n'y a rien, absolument rien, aussi belles que soient les choses, il n'y a rien, absolument rien, qui soit une chose aussi précieuse aux yeux du Seigneur, au cœur du Seigneur, que son Église. Alléluia. Merci pour l'honneur que vous me faites de m'accueillir dans l'Église aujourd'hui. Je veux donc parler de ce qui est cher au cœur du Seigneur, de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur, à savoir l'Église, au travers d'une image. Il y a beaucoup d'images pour illustrer l'Église dans la Bible, dans la parole de Dieu, mais il en est une qui va nous occuper ce matin et qui est chère au cœur du Seigneur. Voici la pensée qui va nous diriger pendant ces minutes. Le lys des vallées. Le lys des vallées. Image de l'Église épouse de Christ. Christ, son épouse, l'Église. On lit un premier texte dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 21 et le verset 2. Apocalypse 21, verset 9 plutôt. L'apôtre Jean nous dit: « Puis un des sept anges qui tenait les sept couples, rempli des sept derniers fléaux, un des sept anges qui tenait les sept coupes, rempli des sept derniers fléaux, m'adressa la parole en me disant: « Viens ! » Je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Quand j'ai épousé mon épouse, j'étais convaincu que c'était la plus belle épouse du monde. Mais quand je lis l'Écriture, je vois ce que le Seigneur Jésus dit. L'épouse la plus formidable, la plus belle du monde, c'est son Église. C'est pour ça que j'essaye de regarder l'Église sous cet angle-là. Elle est la femme de l'agneau. Et à ses yeux, il n'y a rien de plus noble, il n'y a rien de plus digne que son Église sur la terre, pour laquelle il prépare une place dans le ciel. Et comme il nous l'a dit dans l'Évangile de Jean, lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, parce qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là-haut où je suis, vous y soyez aussi. Alors c'est réconfortant de savoir que tantôt, nous serons là-haut dans la gloire, dans la maison du Père, où Jésus nous prépare une place et nous serons avec lui pour toujours, pour l'éternité. Un deuxième passage, donc, pour bien illustrer la fleur, le lys, dans le Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 1 et verset 2. Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 1 et 2. Alors, au verset 1, voici ce que l'épouse déclare. « Je suis un narcisse de Saron, un lys de la vallée. » La version du semeur dit « une fleur ». Un lys, c'est une fleur. Au verset 2, c'est l'époux qui lui répond. « Comme un lys au milieu des épines. » La version plutôt semeur parle de ronces. Comme un lys au milieu des ronces, des épines, tel est mon ami parmi les jeunes filles. Donc, en d'autres termes, je suis un lys des vallées. Donc, pour introduire, je dirais ceci. La Bible emploie plusieurs images pour illustrer, pour définir, pour dépeindre plutôt ce qu'est l'Église aux yeux du Seigneur. Dans le Nouveau Testament, 7 images. Le corps physique prête son image à l'Église de Christ. L'apôtre Paul en parle beaucoup. Nous sommes le corps de Christ. La vigne, dont il a dit qu'il est le cep et nous les sarments. Le temple, vous êtes le temple de Dieu, le temple du Dieu vivant. Le troupeau, en ce sens qu'il est le bon berger, et nous sommes les brebis et les agneaux. La famille, en ce sens qu'il est, en tant que le Père, notre Père, en tant que le Sauveur, il est notre Seigneur, et entre nous, nous sommes des frères et des sœurs. Mais aussi l'armée, vu que nous menons un combat sur la terre, et dans ce combat, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a tant aimés. Puis aussi l'image de l'épouse, c'est l'image la plus sensible, pour illustrer ce qu'est l'Église aux yeux du Seigneur. C'est beau de savoir que le Seigneur nous considère comme son épouse. Et puis aussi, dans l'Ancien Testament, une seule image, c'est celle dont nous allons parler, le lys. Le lys est donc une jolie fleur, même en Israël, elle est un symbole de la nation. Et il est beau de savoir que le Seigneur nous assimile à cette petite splendeur dans l'immensité de la nature et de la création. Alors, l'épouse dit qu'elle est comme un lys. Même pas, elle dit « je suis un lys », c'est son mari qui dit « tu es comme un lys », ça on le verra. Comme un lys. Comment, dans ce texte et dans tout le Cantique des Cantiques, l'épouse se voit-elle ? Et en considérant comment dans ce livre l'épouse se voit, c'est la manière dont nous-mêmes nous nous voyons en tant qu'Église aux yeux de Dieu. Comment l'épouse se voit-elle ? Elle affirme « je suis un lys ». Une affirmation « je suis un lys ». Mais l'époux est tout à côté au verset 2 et il lui répond. Il lui répond, tu es comme un lys. Toi, tu dis, je suis un lys, mais moi, ton époux, je te dis, tu es comme un lys, c'est-à-dire que tu n'es pas tout à fait encore un lys. Et donc, tu as besoin de progresser, tu as besoin de t'épanouir pour devenir comme un lys. Comment Christ, l'époux de l'Église, voit-il l'Église? Si elle, elle se voit déjà dans les perfections, dans la beauté idéale, comparativement à cette fleur des champs si belle qu'est le lys, lui, il ne la voit pas tout à fait dans cette perfection encore. Tu n'es pas un lys, tu es comme un lys, ceci signifie que tu dois te perfectionner encore. Je pense à ce texte dans l'Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 4, verset 15. Éphésiens, chapitre 4, verset 15, qui nous montre que le Seigneur nous dit, pour parvenir à la perfection du lys et de sa beauté, il faut grandir, il faut croître. Mais que professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards. C'est certainement ce petit quelque chose qui manquait à l'épouse du Cantique des Cantiques. Il lui manquait cette croissance à tous égards. Vous voyez, nous disons parfois en pensant d'un frère, en pensant d'une sœur dans l'Église, en disant « Ah, ce frère, c'est un homme de l'esprit. Ah, cette sœur, c'est une femme de la parole. Bien, bien à eux. Mais le Seigneur ne nous appelle pas à être un homme de l'esprit, mais au détriment de tous les autres aspects de la vie spirituelle. Je vois un frère dans une église dans mon lointain passé. C'était un homme de l'esprit dans l'église. Lorsqu'il prophétisait, on buvait. C'était excellent. Ça venait vraiment de Dieu. Cela nous parlait, nous instruisait. Nous aurions aimé être un homme de l'esprit comme cet homme de l'esprit. Mais une nuit de prière. Nous faisions de temps en temps une nuit de prière. Et dans cette nuit de prière, nous l'avons entendu prier. Et chaque fois que les chrétiens priaient dans cette nuit de prière, tout le monde disait « Amen, Alléluia ». Et ce frère s'est mis à prier « Seigneur !» Déjà une interpellation rugueuse au Seigneur. « Tu sais que mon associé, car il s'était associé en tant que peintre, avec quelqu'un de l'extérieur du monde qui n'était pas un membre de l'Église. Tu sais que mon associé, lorsque je suis arrivé au travail, j'ai vu qu'il a piqué la caisse. » Et je n'ai plus d'argent. Deux points à la ligne, petit A. Seigneur, permet que je le rencontre à la ligne, petit B, et que je lui donne un grand coup de pied dans le ventre et il saura qui je suis. Autant l'Église disait toujours Amen, Amen aux prières, à cette prière-là, personne n'a dit Amen. Un homme de l'esprit. C'est bien, c'est ce qu'il faut être, mais aussi un homme de prière, un homme de douceur, un homme de pardon, un homme de fidélité, un homme de sainteté, un homme de consécration, un homme de chaleur spirituelle, d'amour et de piété. C'est ce que veut dire l'apôtre Paul. Mais que, professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards. Dans le domaine de la vie de l'esprit, oui. Dans le domaine de la connaissance des Écritures, oui. Dans le domaine de la piété, de la prière, oui. Dans le domaine de la sanctification, de la sainteté, oui. À tous égards. Le Seigneur ne nous appelle pas à devenir des champions dans un domaine de la vie spirituelle, mais à tous égards. Et c'est cette croissance harmonieuse que l'époux dénonce comme quelque chose qui lui manque à son épouse. Tu dis « je suis », mais tu n'es pas encore « je suis ». Tu es comme. Et pour arriver à ce niveau, atteindre ce critère, il faut que tu grandisses encore et que tu croisses. Nous avions un prédicateur, déjà à la retraite depuis longtemps, qui avait toujours été un bon enseignant dans les Écritures, et qui nous disait en convention ceci, j'ai étudié la parole toute ma vie, j'ai enseigné la parole toute ma vie, et maintenant à la fin de ma vie, j'ai conscience que je ne sais pas grand-chose de la parole. Je l'ai seulement gratté avec l'ongle, tellement j'en sais peu et tellement il y a encore à savoir. Peut-être qu'il nous arrive de penser que nous sommes quelque chose. Mais l'Écriture nous dit, il faut grandir, il faut croître, il faut progresser, il faut aller de l'avant. On peut dire encore autre chose sur la beauté d'Ulysse et par extension la splendeur de l'Église. C'est une belle fleur, le lys. D'ailleurs, toutes les fleurs des champs sont belles. Dans mon jardin, je vois des grosses fleurs comme ça, j'en vois des moyennes, j'en vois des plus petites, et j'en vois des toutes petites, comme ça, avec 4 pétales, blanches, ou roses, ou bleues, toutes petites. Et je dis, Seigneur, tu as créé les toutes petites comme les grandes, et elles sont toutes si belles. Le lys est une belle fleur. Jésus déclare que la légendaire beauté, splendeur du roi Salomon n'est rien à côté de la simple splendeur d'Ulysse. L'apôtre Paul dit, il n'y a parmi vous ni de grands personnages. Nous sommes comme des petits aux yeux du monde, mais si beaux aux yeux de Dieu, parce qu'il nous voit au travers du sang de Jésus, son Fils, versé sur la croix. Donc Jésus déclare que la légendaire du roi Salomon n'est rien comparée à la splendeur du lys des champs. Matthieu, chapitre 6, versets 28 et 29. Pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Et il dit, considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Ça devait être impressionnant de se trouver devant le roi Salomon sur son trône et dans tout son faste. Mais Jésus nous dit, la plus humble fleur des champs est encore plus belle et plus fastueuse. Peut-être qu'aux yeux du monde, l'Église n'est pas grand-chose. Mais aux yeux de Dieu, l'Église, quelle splendeur! Quelle splendeur! Quelle est belle l'Église! Je pense à Balaam, pourtant un ennemi du peuple de Dieu, qui l'a incité à sombrer dans la débauche. Et comme Balaam a vu l'ensemble du peuple de Dieu réparti partout alentour, il n'a pas pu se retenir que de dire une vérité. Quelles sont belles tes tentes, ô Jacob. C'était déjà prémonitoire. C'était déjà dire à l'avance quelle est belle l'Église, malgré qu'elle se trouve dans un monde de corruption dans l'absolu. Aux yeux du Seigneur, elle est belle, son Église. Et j'aime à considérer le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, les vieillards que nous sommes, les couples, les jeunes gens, les jeunes filles et même les enfants, et de voir là ce que voit le Seigneur, l'épouse, la femme de l'agneau, dans sa beauté et dans sa splendeur. Dans ce monde pourtant, même si l'Église n'est pas si bien vue, L'Église reflète néanmoins la gloire de Christ. C'est l'Écriture qui le dit. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Nous tous dont le visage reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Et j'aime chapitre 8, verset 23, chapitre 8, verset 23, où l'apôtre dit « Les églises sont la gloire de Christ ». Les églises locales, par toute la terre, l'Église dans son ensemble, globalement, universellement, l'Église, c'est la gloire de Christ. Alors quand je vous regarde les uns et les autres, je me dis que je vois en chacun d'entre vous un aspect de la gloire de Christ. Dites Amen et Alléluia quand même. Quand j'étais petit, je ne sais plus à quel âge, je l'ai dit souvent dans mes messages, je montais sur un tabouret pour arriver au niveau de la glace, au-dessus du lavabo, je me regardais. Et je m'en souviens, malgré mon âge aujourd'hui. Je me disais, Robert, que tu es vilain, que tu n'es pas beau, personne ne t'aimera. Et j'ai grandi comme ça. Mais jusqu'au jour où une jeune fille, la plus belle de tous les lys des champs, m'a dit, Robert, tu es le plus beau à mes yeux. Et maintenant, c'est un lys qui est là-haut, dans la gloire. Mais vous voyez, à la différence du lys, la belle fleur, qui se fane, aussi belle que soit la fleur, c'est valable pour toutes les fleurs, elle se fane, elle se sèche. Et lorsque la fleur se fane et se sèche, elle baisse la tête. Puis ensuite, elle tombe. Elle meurt. C'est triste. Bien, à la différence du lys, l'Église ne se fane pas, ne se fanera pas. On peut, en tant que chrétien, on peut, en tant que brebis du troupeau, on peut, en tant qu'enfant de Dieu, on peut, en tant que membre du corps de Christ, avoir nos faiblesses. Nous sommes des humains, nous sommes charnels, terrestrement parlant. Nous sommes faits de chair et de sang. Le Seigneur nous a créés avec la terre, avec la poussière. Et nous sommes ainsi constitués. Et c'est pourquoi, à notre départ de la terre, il dit « Tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. » Tel est notre corps. Pour autant, l'aspect de la gloire habite et demeure dans l'enfant de Dieu, dans le croyant. Éphésiens chapitre 5, verset 27. Éphésiens chapitre 5, verset 27, pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. J'aime beaucoup Colossiens chapitre 1, verset 27, la partie B du verset, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Tout dit gloire dans la vie du croyant. Dans un psaume, il est dit, dans son palais, tout s'écrit gloire. Tout s'écrit gloire. Et il arrive le moment où nous allons nous aussi entrer dans le palais de Dieu quand Jésus viendra nous chercher. Et à ceux qui dans le ciel crient gloire à Dieu, nous y associerons aussi notre louange. Ce sera un concert fabuleux. Quand le ciel s'unira au racheté du Seigneur, à l'Église du Seigneur, pour proclamer la gloire de l'agneau sur son trône, la gloire du Père sur son trône, jamais chorale n'aura jamais eu lieu telle cette chorale céleste. Je voudrais parler du parfum du lys. Je voudrais parler de la croissance du lys, mais on est limité par le temps. Alors, je voudrais quand même parler, avant la fin, de quelque chose qui me semble important par rapport au lys. Son environnement. L'environnement du lys, c'est-à-dire là où pousse lys, le lys, tout ce qu'il y a autour de lui, l'environnement du lys, et par extension, l'environnement de l'Église. Tout ce qu'il y a autour de l'Église, autour du croyant. « Je suis un lys, » dit-elle. Pas au milieu des lys, au milieu des épines. Je suis un lys au milieu des épines. Je suis un lys parmi les ronces. Ah, si c'était un champ de lys, avec seulement des lys devant, derrière, à droite, à gauche, partout, ce serait formidable qu'un lys vive au milieu des lys. Mais voilà. Comme un lys parmi les épines, comme un lys parmi les ronces. Vous voyez, le lys, il naît sa naissance, il croît sa croissance, il fleurit sa floraison et il meurt au milieu des épines et parmi les ronces. C'est là l'environnement immédiat du lys. Vous savez que le monde, je suis sûr que je ne vous apprends rien du tout, le monde, c'est un redoutable environnement pour l'Église. Et je dirais même que le monde est bien plus épineux envers l'Église que les épines envers le lys. Nous sommes dans un monde qui ne nous aime pas, qui nous hait, comme a dit Jésus. Matthieu 10, verset 16. Écoutons Jésus. Il s'adressait aux disciples, et par extension, et au-delà du temps, il s'adresse à nous aujourd'hui. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Dans ce monde, en tant que brebis du Seigneur, nous sommes entourés de loups. Et le loup n'a qu'une idée s'il voyait la brebis. Je me rappelle de la fable, quand j'étais petit, de la chèvre de Monsieur Seguin. Vous l'avez apprise, cette fable? Elle a mal fini, la chèvre. Pourtant, elle avait des cornes. Elle était capable de se battre. Mais face à la puissance du loup, face à sa voracité sauvage, meurtrière, face à ses crocs meurtriers, déchirants, elle n'a pas tenu longtemps. Le monde est plus fort que nous. Mais nous, nous sommes plus forts que le monde, parce que le Seigneur est avec nous. Comme a dit un frère dans sa prière, nous ne dépendons pas de notre propre force. L'apôtre Paul dit, notre capacité ne vient pas de nous, mais elle vient de Dieu. Et le Seigneur nous dit qu'il nous fait toujours triompher par sa force toute puissante. Jean 15, verset 19, il nous dit, « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, le monde vous aimerait. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. » Lorsque, bien avant d'entrer dans le Saint-Service, je travaillais à l'usine, eh bien, j'étais comme tout le monde à l'usine. Et du jour où je me suis converti au Seigneur, un soir de Noël, et que mon témoignage s'est manifesté devant tous les collègues de l'usine, du jour au lendemain, boum, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça a été la guerre contre moi. Les épines ont surgi brusquement pour piquer le loup a sorti ses crocs pour m'attraper. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait, mais parce que je vous ai sorti du monde et que vous n'êtes plus du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Il ne faut pas s'étonner si nous sommes l'objet de la haine des gens d'ailleurs et du monde. Mais dans toutes ces circonstances, nous avons le Seigneur pour nous secourir. Bon, je voudrais finir parce qu'il y a trop de choses à dire. Une leçon spirituelle que nous pouvons tirer des épines et d'Ulysse. Une leçon spirituelle à... Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est parce que je touche fort ? C'est peut-être ça. Vicedo, ne touche pas le micro. Tu as compris ? Bon. Alors, une leçon spirituelle à tirer d'Ulysse et des épines. Les lys, ça signifie quoi ? Dans le contexte que nous méditons, en application à l'Église. L'hélice signifie une chose bénie, c'est qu'il y a un temps de paix pour l'Église. Les fleurs n'ont jamais fait de mal à personne. Elles sont belles, on les aime, on les cueille, on les met dans un vase à la maison, elles nous fascinent, on en glorifie le Seigneur. Elle nous parfume. L'hélice signifie qu'il y a un temps, des temps de paix pour l'Église. Et ça, c'est bon de le savoir pour rendre grâce à Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 31. L'Église était en paix. Alléluia. L'Église était en paix dans toute la Judée, dans toute la Galilée, dans toute la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Que Dieu fasse que nous jouissions de la paix d'Ulysse, de la paix du Seigneur, surtout en ces temps de troubles dans lesquels, pas notre pays, mais la planète entière est plongée. Apprécions la paix que Dieu nous donne. Merci Seigneur pour la paix. Nous pouvons nous réunir, nous pouvons prier ensemble, chanter de beaux cantiques, méditer la parole, nous pouvons prendre ensemble le repas du Seigneur, nous pouvons ensemble adorer le Seigneur et lui dire combien nous l'aimons. C'est beau, le temps de paix. C'est ce que nous dit le lys. Mais les ronces et les épines signifient qu'il y a des temps d'épreuve, des temps difficiles, des temps douloureux pour l'Église sur la terre. Les ronces et les épines n'épargnent pas les lys parce qu'ils sont lys. Ils n'épargnent personne, quelles que soient les fleurs qui viennent se frotter. Les épines savent ce qu'il faut faire. Jean chapitre 13, chapitre 16, verset 33. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, il dit. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Peut-être que la version du semeur est plus explicite. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions. Mais courage, moi, j'ai vaincu le monde. Donc voilà notre environnement. Un monde qui nous est hostile, qui ne nous est pas favorable, qui ne nous aime pas, qui nous voue une haine manifeste. Mais Jésus dit... Prenez courage, j'ai vaincu ce monde. Jésus a manifesté sa victoire lorsque il est ressuscité d'entre les morts Et il dit dans le livre de l'Apocalypse, j'ai été mort. Et il dit, mais maintenant je suis vivant au siècle des siècles. Et il dit, et je tiens la mort et le séjour des morts dans les mains. Il n'y a rien de plus fort, il n'y a rien de plus victorieux que Jésus, notre Sauveur. Et quelles que soient les épines et les ronces d'alentour du monde qui risquent de nous blesser, il nous dit déjà dans l'Ancienne Alliance, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Alors, ça fait mal les piqûres. Mais le Seigneur sait nous en guérir. Et il sait même nous en mettre à l'abri. Que le Seigneur soit béni. Alors, pour conclure, on peut dire que le lys se flétrit, se fane, et il meurt. Mais l'Église, épouse de Christ, elle ne se fanera jamais. Elle ne mourra jamais. Pourquoi ? Parce que elle a la vie éternelle. Alléluia. Et pour elle, nous dit Apocalypse, chapitre 21, versets 3 et 4, les douleurs de la terre causées par les ronces et les épines seront finies à jamais. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux et ils seront son peuple, et Dieu lui-même essuiera les larmes de leurs yeux. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus jamais, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. » Voilà ce qui nous attend dans le ciel. « Car les premières choses, dit-il, ont disparu. » Alors ce qui nous fait crier, la persécution dans nos familles, de la part de ceux des nôtres qui ne sont pas chrétiens, au travail, parmi nos collègues, partout ailleurs dans le monde, la persécution sous ses différentes formes, qui nous fait mal, qui nous fait souffrir, qui nous fait pleurer, qui nous fait plier le genou devant le Seigneur, tout cela sera fini. Il y aura là-haut, pour le lys, pour l'Église, l'épouse, la femme de l'agneau, il n'y aura plus jamais de cris, plus jamais de douleur, plus jamais de souffrance. Ce sera la paix éternelle, la paix du lys. Alors je rappelle cette parole qui nous a tenus comme un lys. Parmi les épines, dit l'époux de son épouse. Tel est mon ami parmi les jeunes filles. Voilà, réjouissons-nous de savoir que nous avons un époux qui nous aime, qui sait le cheminement qu'est le nôtre et qui a toujours le regard sur nous pour nous accompagner, pour nous garder et pour nous protéger. Que son beau nom soit. Ah, j'ai oublié le mot. Que son bon nom soit... Eh bien, voilà, vous l'avez trouvé. Que son bon nom soit béni. Alléluia.